n'était pas tout à fait prêt. Vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Non, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac.
Alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite?
À la base, Saint-Jacques.
En pèlerinage?
So may we start. So may we start. It's time to start. High time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective qui reprend ce soir après plusieurs semaines d'interruption pour cause de vacances bien méritées. Une émission de cinéma qui s'écoute en direct un mercredi sur deux à 19h ou en podcast sur le site de Radio G à la page de l'émission. Alors c'est notre première émission de 2022 et nous ne pouvons pas la commencer sans vous souhaiter une très belle année de cinéma, avec des découvertes étonnantes, des révélations sidérales, des débats passionnés et puis tout simplement des rencontres et du partage. Pour le reste, je ne m'engage à rien. Alors nous sommes deux ce soir dans le studio, masqués avec plein de buée sur nos lunettes, et derrière notre micro, peut-être que vous entendez le masque, toujours vaillante et enthousiaste à l'idée de vous retrouver ce soir. Bonsoir Anne-Li.
Bonsoir Margot.
Ah, tu souhaites pas la bonne année aux auditeurs?
Oh mais si, je vous souhaite une excellente année, mais comme il n'y avait pas écrit « Bonne année, chers auditeurs et auditrices », je ne voulais pas souhaiter, mais je le pense.
Bon, et par ailleurs, nous adressons une pensée amicale toute particulière pour notre trinôme habituel, Véronique, qui est actuellement en pleine préparation du festival Premier Plan.
Merci d'œuvrer pour cette cause. Alors au menu de ce soir, un peu moins d'actu ciné, mais toujours autant de conseils de films à voir ou à revoir, en salle ou dans son canapé. Margot, justement, tu as prévu de nous parler d'un film exclusivement disponible en VOD.
Et oui, depuis quelques années, l'actualité du cinéma se décline de plus en plus souvent directement sur petit écran. Alors qu'on y voit une menace pour la bonne santé des salles de cinéma, ou au contraire une opportunité pour la diversité cinématographique, le fait est que pour découvrir le nouveau film de Jane Campion, dont je vais vous parler ce soir, il faut pouvoir se connecter à Netflix.
Il y a toujours moyen. Bon, rendez-vous en fin d'émission pour en savoir plus.
Avant ça, Anne-Li, tu nous présenteras l'agenda des événements ciné prévus ces prochaines semaines dans la région.
Un petit agenda, et dans quelques minutes, on vous propose une sélection de coups de cœur cinématographiques pour démarrer l'année en douceur.
Et pour commencer, c'est le retour de la fameuse séquence sonore d'Anne-Li qui a sélectionné et mixé pour vous quelques extraits d'un film mystère. À vous de jouer pour deviner de quelle œuvre il s'agit, ou bien vous faire votre propre film.
Very, very, very good, marvelous, wonderful. Doit être very, very nouveau, hein.
Je voudrais un melon au porto, après je voudrais un œuf en gelée, un maquereau aux aromates, un foie gras en brioche, une écrevisse à la nage, et puis alors, je voudrais aussi un rouge et grillé, et après je prendrais un poulet de Bresse à la française, voilà. Et une tête de... Oh, non, une pièce de charolais plutôt. Une pièce de charolais d'abord et puis une tête de veau après. Voilà.
Canard aux pêches en aiguillette. Et avant toute chose, une eau minérale.
C'est pas très bon, hein.
C'est même très mauvais.
Oui. Maintenant, je suis seulement le gérant et toute la journée, je sers de la merde.
Hein? Eh oui. Mais au relais de cigale, c'en était déjà.
Oh, peut-être. Oui, mais c'était moi qui la faisais.
Hein? Parce que là, c'est pas vous?
Ah, non! Oh, tous les matins, c'est l'usine du grand patron qui m'envoie tout.
Réponds-moi!
Alors tu vas me faire goûter un de ces plats au hasard. Tu ne me dis rien!
un peu de pourriture noble en suspension. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Hein?
Je n'ai plus la notion de saveur. J'ai l'impression de mastiquer du coton et de boire de l'eau. Souviens-toi, je pouvais reconnaître tous les ingrédients d'un plat. Maintenant, plus rien. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Agueusi.
Qui c'est ça?
En privatif, du grec geusis, goût, diminution totale ou partielle du sens gustatif.
Et alors?
Eh ben, ça peut être très long.
Alors, c'est bien dégueulasse, toute cette bouffe-là, hein?
On ne s'y habitue pas.
Oh, il faudra bien. Il n'y aura plus que ça bientôt.
Il est gouléant, il a de la cuisse, il attaque sèchement le palais, il manque pas de retour. Vous pouvez servir.
Et maintenant, voici la sélection des films que nous vous proposons pour bien commencer l'année, que ce soit les larmes aux yeux, dans un humour grinçant, enchantant, mais toujours avec le sourire.
Alors on commence avec un film américain que j'adore et que je vous recommande, car son humour corrosif me semble être l'antidote parfait dans le climat un petit peu morose de ce début d'année. Il a été réalisé en 1970 par un certain Robert Altman, qui devient du jour au lendemain un réalisateur de premier plan grâce au succès de ce film, qui a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Bon, j'arrête là le suspense, peut-être même que vous avez déjà identifié le film.
Pas du tout.
Il s'agit de MASH, M-A-S-H, un acronyme qui signifie Mobile Army Surgical Hospital. Donc le scénario est inspiré des souvenirs d'un chirurgien de guerre, et les scénaristes en ont fait une comédie grinçante et complètement irrespectueuse sur le pouvoir en place, qui fait rire autant qu'elle réussit à distiller un certain malaise chez le spectateur. Alors, de quoi ça parle exactement? Nous sommes à l'automne 1951, et deux nouveaux chirurgiens sont affectés à un hôpital militaire de l'armée américaine basé en Corée. C'est la guerre de Corée, justement. Ce sont les capitaines Hawkeye Pierce et Duke Forrest. Dès leur arrivée, ils apparaissent comme rebelles, coureurs de jurons et puis malicieux, n'hésitant pas à enfreindre les règles. Ils empruntent par exemple une Jeep et flirtent outrageusement avec le personnel infirmier. Mais néanmoins, ils se révèlent rapidement très compétents. Le film de Robert Altman narre leurs aventures et qui naissent souvent de leur attitude provocatrice vis-à-vis de l'autorité. Le film se passe en Corée, mais en 1970, aucun spectateur américain ne peut être dupe. MASH parle en réalité de la situation de l'armée américaine au Vietnam, comme bien d'autres œuvres réalisées dans les 70s. Par exemple, Air de Milos Forman, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, ou Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, autre Palme d'Or, pour ne citer que quelques références incontournables. Mais là où d'autres réalisateurs ont choisi une critique frontale de l'embourbement des Américains dans un conflit perdu d'avance, Robert Altman opte pour la satire. Et c'est diablement efficace. Difficile en effet de résister à la bêtise revendiquée des situations et à l'humour grinçant des dialogues du film. Mais derrière le rire du spectateur se cache la dénonciation par Altman d'une situation ubuesque dont nous sommes tous un peu complices et l'hypocrisie d'une guerre à laquelle plus personne dans le film, pas même les militaires les plus gradés, ne croit. Et ça, la Fox qui a distribué MASH ne l'avait pas vraiment envisagé. Ils imaginaient simplement avoir affaire à une banale comédie avec des médecins de guerre comme héros. Alors j'ajoute par ailleurs que le film bénéficie d'une brochette de comédiens exceptionnels, au premier rang desquels Elliot Gould et Donald Sutherland, qui interprètent deux des médecins de l'unité. Il y a aussi Robert Duvall, en major aussi rigide qu'incompétent, et Sally Kellerman, qui incarne une infirmière détestée par les chirurgiens du camp pour sa ferveur disciplinaire. Alors, on connaît beaucoup Robert Altman pour sa grande maîtrise de la mise en scène et notamment du plan séquence. La plupart des films de Robert Altman s'ouvrent sur une magnifique séquence d'ouverture en plan séquence, toujours très compliqué à tourner. Mais ici, c'est surtout au niveau de la bande sonore qu'il agit en maître, inventant ce qu'on pourrait appeler un humour de haut-parleur, puisque de nombreuses séquences du film fonctionnent sur le contrepoint qu'apportent les propos tenus par des personnages, parfois à leur insu, derrière un micro qui sont ensuite diffusés dans tout le camp grâce à ces fameux haut-parleurs qu'on voit à de nombreuses reprises dans le film.
Un peu comme nous parfois.
Je pense qu'on fait moins de gags qu'eux. Alors, c'est vrai qu'en 2021, les gags et l'humour paraissent un poil misogynes, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on imagine que sur les champs de bataille, les blagues potaches étaient légion. Par ailleurs, en s'intéressant au genre du film de guerre, Mage propose aussi une réflexion sur l'influence des images au cinéma, à la télévision et puis dorénavant sur les réseaux sociaux, et sur notre résignation parfois en tant que public à ne plus nous révolter devant l'horreur de situations auxquelles nous avons fini malheureusement par nous habituer. Donc un film diablement d'actualité, il me semble.
Merci Margot, moi je ne connaissais ni ce réalisateur ni ce film, ne me juge pas s'il te plaît. Moi je vous propose maintenant de partir du Nouveau-Mexique pour atteindre la Californie, soit 3 jours de road trip. Et pour cette aventure, on a une famille d'outsiders, tous plus décalés les uns que les autres. Alors dans cette famille de la folie douce, je voudrais Cheryl, la mère de 2 enfants, qui est forcément débordée, mais ça c'est normal. Richard, le père, coach de motivation et conférencier, qui tente désespérément de vendre son parcours vers le succès en 9 étapes, distributeur de Maxime à l'emporte-pièce. Franck, l'oncle, spécialiste de Proust, amant et conduit par un ancien étudiant et qui sort d'une tentative de suicide ratée. Dwayne, le fils, amateur de Nietzsche, qui fait vœu de silence avant de rentrer dans l'Air Force Army, c'est son projet. Olive, la petite fille de 7 ans, qui rêve de gagner un concours de Miss. Oui, c'est Miss au corps, vêtements et coiffure ultra formatés. Et Edwin, le grand-père, vétéran de guerre qui prend de la cocaïne, fait des blagues graveleuses à ses petits-enfants et qui a été expulsé de sa maison de retraite pour vendre d'héroïne. Mais c'est bien Edwin, le coach et le chorégraphe d'Olive. Voilà le cocktail familial qui nous accompagne. Et tout le film tourne autour de cet improbable rêve de la petite fille, remporter un prestigieux concours de beauté. Improbable, car nous on voit tout de suite qu'elle n'a pas les codes, pas le physique, pas une seule chance. Alors lorsqu'elle apprend sa sélection, sa famille, où les disputes, les piques et les décalages sont innombrables, se mobilise finalement et l'accompagne dans un combi Volkswagen jaune, un véhicule charismatique mais peu fiable. Alors vous aurez peut-être reconnu le pitch de Little Miss Sunshine, un film états-unien réalisé par Jonathan Dayton et Valérie Faris, qui est sorti en 2006. C'est un road movie infernal, familial, avec des personnages qui, vous l'avez compris, chacun à leur façon, n'ont pas les codes ou ne les respectent pas tout à fait. Le film est rempli de scènes drôles, de rebondissements tous plus inattendus les uns que les autres et bénéficie d'une très bonne bande originale. Si vous avez besoin d'évasion et de voir à l'écran une famille dysfonctionnelle mais qui se retrouve, c'est parfait. Little Miss Sunshine.
Alors pour enchaîner après ces 2 comédies plutôt grinçantes et américaines, et pour ramener un peu de douceur dans ce monde de brut, je vous propose à présent un film français, réalisé en 2008 par la réalisatrice Claire Denis, une grande dame du cinéma français et international dorénavant. Il s'agit de 35 Roms, qui raconte l'histoire de Lionel, un conducteur de RER en région parisienne, et de sa fille Joséphine, étudiante. Lionel est veuf et il a élevé seul Joséphine depuis son enfance. Père et fille partagent le même appartement dans une tour d'une banlieue populaire. Ils ont beaucoup d'affection l'un pour l'autre et une grande complicité les unit. Mais Joséphine grandit et Lionel réalise que l'oiseau va devoir quitter le nid familial. Alors ce film, c'est vraiment un de mes films coup de cœur, un de mes films préférés de Claire Denis, parce qu'il dresse un portrait tout en douceur et en subtilité des relations entre un père et sa fille devenues jeunes filles. Et pour cela, il fait appel à vraiment des comédiens d'exception, à commencer par Alex Tescas, qui interprète le père, Lionel, et qui est un comédien, un grand complice de Claire Denis, puisqu'il a participé à plusieurs de ses tournages. Ensuite, il y a, pour incarner Joséphine, la jeune Mathy Diop, dont c'était l'un des premiers rôles au cinéma, et l'un des rares, parce que depuis, elle est devenue une jeune réalisatrice de talent, et elle a réalisé un premier long-métrage, Atlantique. Peut-être que son nom vous dit quelque chose, parce qu'il a été primé au Festival de Cannes il y a plusieurs années. Et enfin, le dernier comédien important du film, c'est Grégoire Collin, qui incarne Noé, leur voisin, qui va participer justement à faire en sorte que Joséphine quitte le nid. Et Grégoire Collin, bah, c'est lui aussi un comédien fidèle de Claire Denis, mais c'est aussi un visage singulier qui transmet la douceur de ses sentiments pour Joséphine. Alors, vous le comprenez, le scénario est en apparence très simple. C'est un récit linéaire, asset et sans dialogue. Mais que l'image, les sons de la vie quotidienne et la musique poétique du groupe Cinderstick remplissent d'une beauté profonde et d'une douce mélancolie. 35 Roms, c'est une œuvre qui tend à démontrer que moins le cinéma nous dit les choses, plus il nous parle.
Bon, eh bien, je vais à nouveau changer d'ambiance dans mes conseils. Car je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas toujours besoin de radio et de révolution ? Avec Marcel Pagnol en figure tutélaire et poétique.
Est-ce que j'ai le droit de dire que la réponse est dans la question ?
je ne sais pas, ça vous appartient, je vous laisse répondre. En tout cas, si ça vous tente, vous trouverez toutes ces choses dans Les Grandes Ondes à l'Ouest. C'est le titre de ce film suisse réalisé par Lionel Bayer et sorti en 2013. Et dont je t'ai déjà beaucoup parlé, Margot.
Absolument.
Je le sais, beaucoup trop peut-être. Alors l'histoire se déroule en 1974. On suit une équipe de journalistes de la radio suisse romande. Il y a Joseph, le grand reporter invétéré et macho, qui est joué par Michel Villermoz. Et Julie, journaliste moderne et femme émancipée, jouée par Valérie Donzelli. Un duo qui n'a aucune affinité, aucune envie de travailler ensemble, mais qui est envoyé sur le terrain avec Bob, leur ingénieur du son, toujours complaisant comme les ingénieurs du son peuvent l'être. Le terrain, c'est le Portugal, avec la mission de réaliser un reportage sur l'aide apportée par la Suisse à ce tout petit pays en voie de développement. L'équipe recrute sur place un traducteur improvisé, Pelé, qui est un jeune homme qui doit tout son français à l'univers de Marcel Pagnol. Et tous se retrouvent dans un combi Volkswagen, décidément c'est mon fil rouge. Alors évidemment, sur place, rien de très intéressant à leur arrivée. Exemple de reportage, l'arrivée de l'eau tiède grâce à la Suisse. Pour des reporters, des grands reporters comme eux, ça n'est pas très satisfaisant. Heureusement, il y a un hasard ou une chance. Car en avril 1974, au Portugal, c'est avant tout la révolution des œillets qui entraînera la chute de la dictature salazariste, en place depuis 1933. Voici donc nos héros qui se retrouvent en plein bouleversement historique sans le savoir, sans l'avoir prévu, sans y être préparés. Vraiment, en tombant par hasard sur un char. Et leur aventure est faite de rencontres, de situations improbables, d'incompréhensions. Je ne vous dévoile pas tout. Moi, j'ai un très bon souvenir de ce film qui nous parle de radio, d'aventure collective, d'utopie, de mémoire, d'amitié aussi. Bref, je vous le conseille, Les Grandes Ondes à l'Ouest.
Donc vous avez compris que ce soir, on commence par plusieurs conseils pour bien démarrer l'année. Et c'est un peu nos films doudous que nous vous présentons. Et moi, je vais terminer cette petite sélection, j'allais dire pot-pourri, mais je préfère sélection, de conseils, avec un film qui fait assez écho avec les thématiques des grandes ondes, sur le côté aventure collective et puis médias, qui s'appelle « Chantons sous la pluie ». Donc évidemment, vous le connaissez probablement.
Ça me dit quelque chose.
Car c'est un monument du 7e art. Mais c'est aussi un petit bijou de film, à voir ou à revoir en famille, qui évoque avec flamboyance ce que peut être le cinéma, une aventure collective et l'art de transformer la réalité en quelque chose de plus grand et de plus beau. Alors, Chantons sur la pluie, c'est un film qui a été réalisé par Stanley Dolan et Jane Kelly, qui tient également le rôle masculin principal. Jane Kelly, c'est le comédien qui incarne avec Fred Astaire l'âge d'or de la comédie musicale américaine. Car c'est une comédie musicale, avec tous les attributs du genre. Costumes, décors, glamour, comédie romantique et bien sûr, danse, claquettes et chant. Avec quelques tubes incontournables, dont celui qui donne son titre au film. Le scénario a d'ailleurs été écrit sur mesure pour intégrer des chansons qui avaient été écrites et composées des années avant par Arthur Freed, qui était donc compositeur de ces chansons, avant de devenir producteur du film « Chantons sous la pluie ». Alors, rien qu'en lui-même, je trouve que ce genre, la comédie musicale, en fait déjà un bon candidat pour une soirée de janvier tout en douceur. Alors, pour le résumer, je vous le fais très rapidement, puisqu'il s'agit de Don Lockwood et Lina Lamonde, qui sont deux stars de cinéma muet, adulées du grand public. Ils filent un amour de façade dans leurs films et aux avant-premières, mais se détestent cordialement dans la vie. Un jour, leur studio leur propose de tourner leur premier film parlant. Problème de taille, la belle Lina Lamont a une voix de crécelle. Alors comment faire pour sauver le film d'un échec retentissant ? Chantons sous la pluie date de 1952, à un moment où le parlant était largement installé dans le cinéma, mais l'intrigue se situe en 1927 à Hollywood, au sein des grands studios de production cinématographique des États-Unis. Alors, c'est vraiment une date précise, 1927, car ça évoque la transition entre les films muets et le cinéma parlant. Et 1927, c'est justement la date de sortie en salle du premier film parlant de l'histoire du cinéma, Le Chanteur de Jazz. Donc, outre le plaisir d'assister à une comédie musicale, Chantons sous la pluie, c'est aussi un film passionnant pour l'évocation de la révolution qui a été l'émergence très rapide du son dans le cinéma, avec notamment la possibilité d'intégrer des bruitages et surtout de donner à entendre au public les voix des comédiens. Et va se poser dans le film la question de l'éventuel doublage de cette comédienne qui est probablement parfaite pour le cinéma muet, mais plus du tout adaptée au cinéma parlant. Et puis avec ce film, on passe aussi dans les coulisses du cinéma et on découvre l'ambiance électrique des tournages, l'univers des plateaux et un certain nombre d'accessoires de trucage. Par exemple, est-ce que vous savez comment simuler du vent dans les cheveux d'une comédienne lors d'une grande scène d'amour? Ou bien comment transformer un fond blanc en coucher de soleil paradisiaque, etc. Plus largement, Chantons sous la pluie est une réflexion bienvenue sur la dualité entre la réalité quotidienne et la façon dont le 7e art peut la transcender et la rendre universelle. Et la mise en scène du film donne à voir de nombreuses séquences qui jouent sur cette notion de double. Et là, si vous tendez l'oreille, on écoute Singing in the Rain.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
Je ne sais pas si ça vous a envie de
donner envie.
Donner envie de danser dans la rue. Enfin, en tout cas, il ne pleut pas ce soir à Angers. Mais c'était Singing in the Rain, parole d'Arthur Freed et musique de Nacio R. Brown. La chanson qui, bien sûr, a donné son titre au film de Stanley Donen et Gene Kelly dont nous parlions juste avant. Vous êtes bien sur Radio G, 101.5 FM, et c'est Caméra Subjective. Maintenant, nous sommes à l'écoute de l'agenda cinéma.
Et oui, deux dates, deux rendez-vous. Tout d'abord, le mois de janvier à Angers pour le cinéma, c'est évidemment le festival Premier Plan. La 34e édition aura lieu du 24 au 30 et comme d'habitude, vous pourrez y découvrir des centaines de films avec la compétition des premiers films européens, les rétrospectives thématiques, des plans animés, mais les aussi très appréciées lectures de scénarii. Alors la programmation est toujours très riche et vous donne rendez-vous dans tous les lieux dédiés au cinéma de la ville. Et si vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à vous glisser dans une séance de court-métrage, au hasard, juste pour voir. Notez que le festival recherche encore quelques bénévoles pour l'accueil des publics et la médiation. Alors si vous voulez mettre la main à la pâte et découvrir les coulisses de Premier Plan, allez vite remplir le formulaire dédié sur leur site. Tout est en lien à la page du podcast de l'émission. Bien sûr, avec la période chamboulée, quelques incertitudes persistent sur la programmation, mais on a l'habitude et surtout, on a beaucoup d'espoir que le festival se déroule comme prévu, comme l'année passée. Pour ne rater aucune info et découvrir le programme complet, car je n'ai fait que vous mettre l'eau à la bouche, c'est vrai, c'est sur www.premierplan.org, sur les réseaux sociaux bien sûr, et très certainement, dans deux semaines, notre prochaine émission. On en parlera beaucoup plus en détail. L'autre date qui a retenu mon attention et que je vous propose dans cet agenda, c'est une soirée Cinédoc proposée par les 400 coups. Jeudi 13 janvier à 20h, vous pourrez découvrir En formation, réalisé par Julien Meunier et Sébastien Magnier. Dans ce documentaire, on suit l'apprentissage de futurs journalistes au sein du CFJ Paris. Est-ce que l'émotion, c'est de l'info? Qu'est-ce qui fait un bon angle journalistique? Comment bien hiérarchiser les sujets? L'information est-elle formatée? Et si oui, comment? Toutes ces questions sur le traitement, le choix et le récit de l'information sont toutes simples, mais terriblement complexes et importantes. Car la responsabilité est grande lorsqu'on fait un média. Ce film scrute ainsi une école de journalistes, lieu initial de la formation, mais nous renvoie aussi à nous, public. La projection sera complétée par une rencontre avec les réalisateurs, la présence du Club de la Presse d'Angers et de Gwen Froger, journaliste culturelle. Le film est sous-titré « Comment sont formés ceux qui nous informent ?» Alors si cette question vous interpelle également, je vous redonne les infos. En formation, au 400 coups, jeudi 13 janvier à 20h, et on écoute la bande-annonce.
Attention, ça va partir. 3, 2, 1. Non, mais c'est pas, il faut pas réfléchir du tout. Je veux pas dire qu'il faut être con dans ce métier, mais il y a un moment où là, au moment où tu balances ton papier, tu dois être complètement monomaniaque. C'est-à-dire que toi, tu n'existes plus. Tu ne vis que pour raconter cette histoire-là. Et à la fin, tu vas mourir. T'es une éphémère, quoi. T'es un papillon qui meurt juste après. Tu dois tout me balancer sur ce papier. Et pas penser à quelle attitude j'ai, comment je le dis, oui, mais j'ai hésité, machin. On s'en fout.
Parmi eux, 6 femmes, 8 enfants et 2 nourrissons.
Et donc on vous a appris à faire des belles phrases, à faire des beaux trucs et tout. Et moi ce que je vais vous apprendre c'est arrêter de faire des belles phrases. J'aime pas les belles phrases. Ce que je veux c'est que vous me racontiez des histoires.
Merci Ali. Alors moi je retiens de cette bande-annonce qui donne furieusement envie. Dans ce métier, il faut pas être con, hein, c'est vrai. En tout cas, beaucoup de choses intéressantes à voir et maintenant beaucoup de choses intéressantes à découvrir avec la séquence sonore. Nous allons enfin savoir de quel film tu nous parlais?
Ce film qui vous a peut-être mis à la bouche ou au contraire vous avez frôlé l'indigestion avec les extraits en début d'émission, puisqu'on a tous et toutes beaucoup trop mangé ces dernières semaines, puisqu'on est nombreux et nombreuses à perdre le goût ou à s'en inquiéter, puisque pour les fêtes de fin d'année, les chaînes télé nous repassent toujours l'intégrale de Funès, puisque Coluche est toujours une personnalité aimée et populaire. On redécouvre ensemble L'aile ou la cuisse, classique, facile, quoique, un film de Claude Zidi sorti en 1976 avec une bande originale de Vladimir Cosma. Le pitch, Charles Duchemin, joué par Louis de Funès, est un célèbre critique gastronomique qui dirige le guide du même nom. On le suit dans son quotidien où il va goûter incognito tous les restos possibles et imaginables. Mais un jour, suite à un repas infâme, il perd le goût. C'est la gueusie. Du grec à privatif, gueusi le goût, vous avez retenu. Et son rival, l'industriel Jacques Tricatel, l'apprend et veut en profiter pour le fragiliser. Alors Charles Duchemin compte sur son fils, Gérard, joué par Coluche, pour l'aider, mais celui-ci a bien d'autres projets en tête. Après cette perte de goût, l'enjeu du film tourne autour d'un duel télévisé qui va opposer Charles Duchemin et Jacques Tricatel. Voilà pour le résumé. Alors on est dans les années 70 et la question de la malbouffe à ce moment-là est des plats préparés et toute nouvelle en France. Ce film couvre ce débat avec humour. L'aile ou la cuisse, c'est aussi un de mes souvenirs cinématographiques d'enfance. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien que certains de tes choix, Margot. Et c'est un film que j'ai pris plaisir à revoir des années plus tard en tant qu'adulte. Bien qu'il y ait surtout des scènes de dégustation, ce qui me marque moi avant tout, c'est la visite de l'usine Tricatel. Le cirque de Gérard aussi, et tous les en dehors du scénario, tout ce qui se passe en dehors du restaurant. L'usine Tricatel, c'est un endroit qui est merveilleux et terrible, complètement, presque un conte en fait, où le plastique est transformé en poulet ou en salade, le pétrole en vin millésimé, et où les pâtisseries sont fabriquées à la chaîne. Et c'est une séquence que j'ai toujours trouvée fascinante. Dans ce film, j'aime beaucoup les décors, les accessoires, les bruitages, qui sont vraiment loufoques. Comme le film, car l'aile ou la cuisse, ce sont des caricatures qui sont tirées à l'extrême, mais qui restent, je trouve, toujours amusantes. Par exemple, dans l'immonde cuisine de cet ignoble restaurant, où le pire de tout ce qu'on peut imaginer est rassemblé. Des cendres dans la pâte, un mauvais accueil, pas de tenue pour faire la cuisine, c'est terrible. Ou bien comment Charles Duchemin prélève méthodiquement et presque scientifiquement des échantillons de ses repas. De Funès quoi, toujours au max. Alors presque toutes les scènes sont cocasses, drôles, et c'est donc un film no limits, en tout cas qui n'a pas peur d'être décalé. Car franchement, pourquoi se priver quand on peut forcer le trait au maximum, que ce soit celui des personnages ou celui du comique des situations. Le récit tourne, vous l'avez compris, autour de la qualité de l'alimentation, mais c'est aussi l'histoire d'un fils qui peine à trouver sa place face aux attentes de son père et d'une réconciliation familiale. Bon, moi je trouve que ce film est drôle, qu'il a sa part de poésie, il passe vite. Je sais pas si c'est un programme à revoir en janvier, mais nul doute que L'aile ou la cuisse sera rediffusée à Noël prochain. Patience donc. Maintenant on va retrouver un film contemporain, récent, grâce à la chronique de Margot.
Alors comme d'autres illustres réalisateurs avant elle, Jane Campion a répondu à l'appel de la généreuse plateforme Netflix, qui distribue en exclusivité son nouveau film « The Power of the Dog ». Le pouvoir du chien, c'est le titre canadien. Celui-ci était néanmoins présenté en avant-première à la Mostra de Venise en septembre dernier, où Jane Campion a reçu le Lion d'argent de la meilleure réalisation. Je rappelle qu'elle avait reçu la Palme d'or pour la leçon de piano. The Power of the Dog est disponible depuis début décembre sur la plateforme et je vous propose d'écouter dès maintenant un extrait de la bande-annonce particulièrement efficace et intelligent.
It's just a man. Only another man.
Peter!
Alors, qu'avons-nous entendu dans ce teaser? Tout d'abord, vous l'avez remarqué, il y a comme un leitmotiv sonore, quelques notes entêtantes sifflées par le personnage principal, Phil. Alors, pour qui aime le cinéma, le sifflement renvoie assez automatiquement à Ennio Morricone et à la musique emblématique qu'il a composée pour la trilogie du dollar, trois œuvres cultes et des western spaghetti qui ont fait la notoriété de Sergio Leone. Donc avec ces quelques notes sifflotées, le teaser de The Power of the Dog inscrit immédiatement le film de Jane Campion dans le genre du western, avec ses paysages de l'ouest américain, ses personnages de cow-boys virils et ses intrigues de propriétaires terriens. Et de fait, le film de Jane Campion se passe dans le Montana au 19e siècle. Phil et George sont deux frères qui habitent et exploitent ensemble le ranch prospère de leurs parents. Phil est un homme colérique, intelligent, sûr de son pouvoir, meneur d'hommes sans vergogne. La virilité incarnée pour les cow-boys qu'il emploie. George, son frère, au contraire, silhouette ronde et très effacée, s'avère bienveillant tout en restant en retrait des comportements intempestifs de Phil. Après une cour discrète à Rose, une jeune veuve qui tient un restaurant dans une bourgade voisine, George l'épouse en secret. Rose s'installe au ranch avec son fils Peter, jeune homme fragile et efféminé, qui devient rapidement la risée de Phil et de ses employés. À travers Peter, Phil cherche à atteindre Rose qu'il déteste et dont il soupçonne la vénalité.
Une intrigue de vengeance et de rivalité sur fond de western, c'est bien ça ?
En effet. Et de ce point de vue, le scénario est particulièrement habile et jouissif et par ailleurs développe un vrai suspense qu'on a entendu un petit peu dans la bande-annonce. Mais souvenez-vous, on entend aussi autre chose dans ce teaser, notamment des sons, on appelle ça des bruitages au cinéma, très présents, comme le souffle du vent, les hennissements de chevaux ou les rires gras d'hommes moqueurs. Alors ces éléments participent bien sûr au western, mais ils témoignent aussi de l'approche originale de Jane Campion envers ce genre cinématographique, historique et donc très codifié. Avec The Power of the Dog, la réalisatrice nous propose une sorte de western sensitif, où tous les éléments, je dirais presque tous les atouts de la mise en scène, sont mobilisés pour nous faire ressentir les sentiments des personnages. Alors par exemple, le décor imposant, avec des montagnes majestueuses qui entourent et qui cernent le ranch des deux frères, transformant en fait le paysage en une véritable prison naturelle. On peut parler aussi de la lumière du film, qui joue avec force sur les ombres et les contrastes, à l'image des tempêtes qui bouillonnent sous les crânes de tous les personnages. Il y a aussi les gros plans sur les visages, sur les mains ou sur la peau des personnages, ainsi que sur la robe des chevaux, ce qu'on entend dans le teaser. Et ces images créent à la fois de la tension et de la sensualité. On peut noter aussi les couleurs ocre, dont la monotonie peut renvoyer à l'ennui et à la solitude d'une journée d'été dans un ranch. Et là, je parle surtout pour le personnage féminin. Et enfin, on peut évoquer la bande sonore extraordinaire du film, qui fait la part belle au bruitage plus qu'au dialogue, dans un film où les silences, les ressentiments tus et les non-dits sont prépondérants. Donc à travers cette mise en scène très sensuelle, très sensorielle d'ailleurs, le western de Jane Campion, le western est ainsi soumis aux intentions des personnages, qui ne sont plus des archétypes comme c'est souvent le cas dans un genre très codifié.
On entend aussi une voix dans le teaser ?
Absolument. C'est celle de Kirsten Dunst, l'actrice américaine, qui est formidable dans le film en interprétant Rose, la femme de George. Elle s'adresse à son fils à propos de la cruauté de Phil, le frère de son mari. « C'est qu'un homme comme un autre », lui dit-elle. Et c'est là le vrai sujet du film. The Power of the Dog interroge de façon passionnante la masculinité à travers notamment le rapport à la violence, à une certaine bestialité, à la domination, à la perception des femmes et à la sexualité. Qu'est-ce que c'est que d'être un homme, un vrai, dans un environnement qui semble taillé pour une virilité exacerbée de mâle dominateur ? Là est le vrai suspense du film. Avec les personnages de Phil, George et Peter, Jane Campion nous propose trois passionnants portraits d'hommes qui se confrontent, chacun à leur manière, à ce moule de masculinité. Ils sont incarnés par des acteurs formidables, à commencer par Benedict Cumberbatch, qui joue Phil, dont la démarche rigide impose en un plan d'ouverture le tempérament sadique de son personnage. Alors si vous le pouvez, ne ratez pas ce film intense et esthétiquement magnifique, disponible malheureusement en exclusivité sur Netflix.
On va s'organiser pour le voir. Merci Margot, ça a l'air génial, ça a l'air très beau. C'est déjà la fin de Caméra Subjective. Merci pour votre écoute, encore plus si c'est la première fois que vous nous écoutez, mais peut-être encore plus, ou en tout cas un immense merci à nos auditeurs et nos auditrices fidèles. Après avoir partagé avec vous nos films douceur et réjouissance, on serait très heureuse de découvrir les vôtres. Alors n'hésitez pas à nous en faire part. Il vous suffit de nous envoyer un message via la page de l'émission sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. Vous pouvez nous écrire ou même nous envoyer un message audio. Profitez-en pour nous donner votre adresse mail si vous voulez recevoir notre newsletter. Vous trouverez à cette même page tous les podcasts de notre émission ainsi que les références de toutes les œuvres citées. Et c'est un petit peu de boulot, mais on le fait aussi avec joie. Merci Margot.
Merci Anne-Li.
On se retrouve dans 15 jours, le 19 janvier, et on parlera de...
du festival Premier Plan.
Super, merci, je suis ravie. La semaine prochaine, le mercredi à 19h, ce sera Bande Geek Mafia, la bande qui vous parle de séries, bandes dessinées et de films. On les salue. Et si vous restez à l'écoute, dans une vingtaine de minutes, c'est Rudy's Back que vous entendrez à 20h. Donc, très bonne soirée, bon film et à dans 15 jours.